Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu, en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement, de toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce vendredi soir 8 avril 2022. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne, bienvenue dans le journal. L'Irak, l'Iran se prononce en faveur du développement de la coopération bilatérale. Le Hezbollah libanais a salué l'opération de Heroïk à Tel Aviv. Selon le Hezbollah libanais, la détermination du peuple plus forte que la volonté de l'occupation. Israël a mobilisé le monde entier pour nous prier à garder notre calme et veiller à la stabilité, selon le chef du bureau des relations internationales dû à Hamas. Les déclarations d'Erdogan sont une ingérence dans les affaires intérieures de la Tunisie. C'est en ces termes qu'a réagi le ministère tunisien des Affaires étrangères aux récents propos du président turc. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a discuté lors d'une conversation téléphonique avec son homologue irakien Fouad Hossein des dernières mesures prises dans le cadre des relations bilatérales au cours desquelles les deux hommes ont souligné la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de tous les accords antérieurs entre les deux pays. Le ministre iranien et irakien des Affaires étrangères, lors de cet appel téléphonique vendredi matin, ont discuté des questions d'intérêt commun, notamment en fait les développements régionaux, les négociations de Vienne et les moyens de renforcer les relations bilatérales. Les deux parties ont passé en revue les dernières mesures prises dans le cadre des relations bilatérales, soulignant la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des accords déjà conclus entre Téhéran et Bagdad. Au moins deux morts dans une opération à Tel Aviv. Une nouvelle opération anti-israélienne a fait au moins deux morts et de nombreux blessés. Jeudi 7 avril au soir dans le centre de Tel Aviv, Raed Hazem, un Palestinien de 28 ans originaire de la région de Jenin en Cisjordanie occupée, est tombé en martyr près d'une mosquée dans le quartier de Jaffa. De son côté, le mouvement de résistance palestinien Hamas a célébré une opération héroïque et le djihad islamique a salué une réponse naturelle aux crimes d'Israël dont le raid récent à Jenin. Le Hezbollah libanais a salué l'opération héroïque à Tel Aviv et une nouvelle fois les combattants palestiniens prouvent leur capacité à affronter l'occupant israélien, à riposter à ses crimes et à lui asséner des coups humiliants, surprenant au cœur de son entité et usurpatrice. L'opération héroïque menée par le combattant martyr Raed Fatih Hazem à Tel Aviv montre la faiblesse peuplée, c'est la fragilité de l'entité des sionistes ainsi que l'échec cuisant de services de sécurité et de renseignement qui n'ont pas pu affronter un seul combattant palestinien malgré leur supériorité technique et le déploiement de plus de 1000 soldats sur les lieux de l'opération, précise dans son communiqué le Hezbollah libanais. Le Hezbollah loue également les prouesses du peuple et des factions de la résistance palestinienne. Il salue et apprécie tous les combattants et les militants qui ont humilié cette entité criminelle, la plongeant dans le désarroi. À cette occasion, le Hezbollah appelle les hommes libres du monde, les peuples de notre nation arabe islamique, à se mettre aux côtés du peuple palestinien, lui apportant tout le soutien possible. Pour le Hezbollah, la poursuite de ses opérations remarquables confirme l'engagement du peuple palestinien, dont la détermination est plus forte que la volonté de l'occupation à poursuivre la lutte jusqu'à la libération de toute la Palestine, de la mer jusqu'à la rivière. Israël a mobilisé le monde entier pour nous prier à garder notre calme et veiller à la stabilité, selon Abu Marzouk, le chef du bureau politique des relations internationales du Hamas. Moussa Abu Marzouk a affirmé lors d'une interview accordée à la chaîne satellitaire libanaise Al-Mayadin, Israël a mobilisé le monde entier pour nous prier de garder notre calme, de préserver la stabilité et d'éviter toute escalade, notamment le souffle du secrétaire général des Nations Unies pour les affaires humanitaires, son assistant pour les affaires politiques, son assistant pour les affaires de paix au Moyen-Orient, sans compter les messages européens, a-t-il précisé. Il a expliqué que le mouvement ne permettra pas aux colons ou à d'autres d'attaquer la mosquée d'Al-Aqsa et de la transformer en synagogue pour eux. Nous en avons informé tous les médiateurs qui nous ont contactés dans le but de nous convaincre à réduire les tensions, a-t-il souligné encore. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. La Tunisie a vivement réagi aux récentes déclarations du président turc Recep Tayyip Erdogan. Le ministère tunisien des Affaires étrangères a exprimé de son profond étonnement face à la déclaration du président turc Recep Tayyip Erdogan concernant en fait le fait qu'il avait critiqué la décision prise par le président tunisien de dissoudre le Parlement. Erdogan a critiqué la décision prise la semaine passée par le président tunisien Kaïs Saïed de dissoudre le Parlement, la qualifiant de distorsion à la démocratie. Et il a aussi condamné une démarche qui est, selon lui, une source d'inquiétude pour l'avenir de la Tunisie et un coup porté à la volonté de son peuple, craignant que l'évolution en Tunisie ne nuise aux efforts du pays pour établir une légitimité démocratique et ne fasse dérailler le processus électoral dans le pays. Y réagissant, le ministère tunisien des Affaires étrangères a publié un communiqué dans lequel il a condamné une ingérence inacceptable dans les affaires intérieures, laquelle contredit totalement les liens fraternels qui unissent les deux pays et peuples et le principe du respect mutuel entre les deux pays. Ce jeudi marquait la journée internationale de réflexion sur le génocide rwandais de 1994, au cours duquel plus d'un million de personnes ont péri dans l'horreur. À l'occasion du 28e anniversaire du génocide rwandais contre les Tutsis, la Commission de l'Union africaine et la mission permanente de la République du Rwanda auprès de l'Union africaine ont organisé conjointement une commémoration du génocide de 1994 contre les Tutsis. Le président rwandais Paul Kagame a critiqué les grands pays qui n'ont jamais agi pour arrêter le massacre et qui critiquent maintenant le manque de liberté d'expression dans ce pays. Certains de ces pays sont grands, mais ils n'ont aucune leçon à donner à quiconque, car ils font partie de l'histoire qui a causé la mort de plus d'un million de nos concitoyens. Ils en sont la cause, a déclaré le président rwandais Paul Kagame. Eh bien, chers amis, si tout ça, ça va, notre journal d'information, merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous, nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Israël a mobilisé le monde entier pour nous prier à garder notre calme et veiller à la stabilité, selon le Hamas, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Le chef du Bureau des relations internationales du Hamas, Moussa Abou Marzouk, a affirmé lors d'une interview accordée à la chaîne libanaise Al-Mayadin, « Israël a mobilisé le monde entier pour nous prier de garder notre calme, de préserver la stabilité, d'éviter toute escalade, notamment le sous-secrétaire général des Nations Unies pour les affaires humanitaires, son assistant pour les affaires politiques, son assistant pour les affaires de paix au Moyen-Orient, sans compter les messages européens. Monsieur Abou Marzouk a expliqué que le mouvement ne permettra pas aux colons ou à d'autres d'attaquer la mosquée d'Al-Aqsa et de la transformer en synagogue pour eux. Nous en avons informé tous les médiateurs qui nous ont contactés dans le but de nous convaincre à réduire les tensions. Le chef du Bureau des relations internationales du Hamas a souligné que l'occupation a renforcé la présence de ses forces afin de réprimer les fidèles et ceux qui restent dans la mosquée d'Al-Aqsa pour la protéger des extrémistes lors de leur entrée, tout en ajoutant « Nous ne permettons pas aux colons de saboter la mosquée d'Al-Aqsa et nous la défendons par tous les moyens disponibles et si jamais elle est de la cible d'attaque, la région ne connaîtra pas la paix. » Abou Marzouk a évoqué la relation avec l'Égypte, notant qu'elle est stable et nous ne voulons aucune escalade avec l'Égypte ou avec aucune partie arabe, car nous voulons nous concentrer sur l'ennemi, ses agressions et le siège qu'il mène sur nous. Il a dénoncé le double standard de la communauté internationale entre la crise en Ukraine par rapport à la question palestinienne, que ce soit en termes d'immigrés ou de légitimité de résistance. Quant aux négociations nucléaires, Abou Marzouk a souligné que les États-Unis tentent d'accélérer le processus de l'accord nucléaire en raison de leurs besoins pour le pétrole, alors que ce sont eux qui ont violé ou retardé le pourparlers et que le négociateur iranien fixe intelligemment ces conditions. Nous rejetons toute normalisation avec l'ennemi des sionistes, a-t-il précisé encore. Le chef du Bureau des relations internationales du Hamas a commenté les demandes israéliennes à Ankara concernant le Hamas, soulignant que cette demande se peut poursuivre, mais la partie turque n'y a pas répondu. Elle traite avec nous tant politiquement qu'officiellement. Quant à la normalisation des relations avec Israël, Abou Marzouk a souligné, nous rejetons toute normalisation avec l'ennemi des sionistes, que ce soit de la part de la Turquie ou d'autres, cela nuit à l'avenir de notre cause et ce n'est pas dans l'intérêt de la cause palestinienne. Concernant l'axe de la résistance et la cause palestinienne, Abou Marzouk a affirmé que toutes les parties soutenant la résistance en Palestine, dont l'Iran et le Hezbollah, qui sont restés attachés à leur leur position et leurs principes, et ce malgré les fortes pressions qui ont été exercées contre eux, ajoutant « Nous sommes aux portes de la phase de libération et non l'étape de la remontée en puissance de l'entité sur notre sol. Nous serons les vainqueurs qui te célébreront sur les places de la mosquée. » Al-Aqsa a-t-il souligné encore. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons aborder ce qui se passe à Al-Quds. C'est occupé, si vous avez suivi l'actualité, vous en êtes rendu compte. Il y a eu ces derniers jours de rassemblement à Al-Quds entre les Palestiniens et les forces d'occupation israéliennes. Il y a eu également des affrontements militaires entre les forces israéliennes et les combattants palestiniens à Jenin. Trois combattants palestiniens ont été tués. Les groupes de résistance palestiniens y ont réagi. La résistance palestinienne, qui a mis en garde contre, si vous voulez, toute bêtise de la part du régime israélien. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. Ces événements ont à Al-Quds occupé également à Jenin en Cisjordanie interviennent à un moment où il y a eu tout récemment cette réunion entre les Américains, les Israéliens, les Marocains, les Émiratis et également les Bahreïnis dans, si vous voulez, la région du Negev en Israël. Est-ce qu'on peut établir un rapport entre, si vous voulez, ces deux des événements ou pas? On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Bruxelles un géopoliticien belge spécialisé des questions internationales, M. Luc Michel. Luc Michel, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, à nos téléspectateurs et à toute l'équipe. Je salue bien d'abord l'entier le professeur Dortigui, qui est mon collègue Thomas.
Vous l'avez dit, l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui qui est avec moi pour cette émission au téléphone depuis Toulouse, c'est M. Pierre Dortiguier, philosophe français spécialiste des questions internationales. M. Dortiguier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, cher M. Narostine, bonjour à tous vos auditeurs et à notre ami M. Michel.
Monsieur Dortiguier, on va commencer avec vous l'émission d'aujourd'hui. Quelle analyse portez-vous sur ce qui se passe actuellement entre Palestiniens et Israéliens, s'il vous plaît?
Eh bien, cette réaction, disons, palestinienne est peut-être liée, en effet, à la réunion à laquelle vous avez fait allusion sur le Negev, disons, entre les Américains, les gens du Golfe et disons les Israéliens. Je crois qu'il s'agit là d'une protestation palestinienne, disons, assurant qu'elle ne se plierait pas à une décision, entre guillemets, internationale, et en fait faussement internationale, disons, pour pouvoir, comme le dit ici chez nous, un candidat aux élections, M. Zemmour, pour, disons, effacer la question palestinienne. C'est-à-dire contester, disons, le bien fondé, disons, la justice de l'entité sioniste. Celle-ci repose sur un coup de force, vous voyez, et elle n'a jamais reconnu ce à quoi elle s'est engagée aux États-Unis, devant les Nations Unies en 1948 à résoudre la question palestinienne, c'est-à-dire à donner justice aux Palestiniens. C'est une des raisons, vous savez, de l'acceptation de l'entité sioniste parmi les Nations Unies. Eh bien, Israël l'a refusé, et donc il est normal que périodiquement, sont chroniquement, il y ait ces réactions palestiniennes, qui sont des réactions de protestation, des réactions de survie d'un peuple.
Luc Michel, votre ode de lecture des faits, s'il vous plaît.
On constate depuis quelques années une chute d'Israël. Jusque-là, Israël avait une supériorité stratégique dans tous les domaines sur l'axe de la résistance, et en particulier sur la Syrie, le Liban et l'Iran. Mais aujourd'hui, c'est terminé. On voit que les systèmes antimissiles israéliens ne sont plus performants. On voit que le secteur balistique développé par l'Iran et dont il a doté l'entièreté de l'axe de la résistance est capable de vaincre Israël. Et dans le cadre de la guerre de la Syrie, la Russie a établi la parité stratégique qui existait dans la dernière décennie de l'Union soviétique avec la Syrie d'Hafez al-Assad et Israël. C'est donc la fin de la supériorité stratégique israélienne et c'est le succès de ce qu'on a appelé la guerre hybride de l'Iran et de l'axe de la résistance, cette nouvelle forme de guerre inventée à partir de la guerre du Liban en 2006 par les Hezbollah libanais. C'est la panique complète des jeunes israéliens et des nouvelles alliances avec certaines pays métro-monarchies arabes réactionnelles, n'assure plus à Israël cette supériorité stratégique. Il y a d'autant plus ce phénomène qui est en train de se faire, c'est-à-dire le basculement dans le domaine géoéconomique des métro-monarchies, des Émiratis et des Qataris du côté du bloc de l'Est dans le domaine du gaz, du pétrole.
C'est très important.
Et Luc Michel, est-ce que vous aussi vous établissez, tout comme M. Dortiguet, un rapport entre ce qui se passe entre Palestiniens et Israéliens dans l'état actuel des choses et ces réunions, ces récentes réunions qui ont eu lieu en Égypte et dans le Negev, s'il vous plaît?
Oui, c'est-à-dire, j'expliquais donc qu'il y a un basculement géopolitique qui est inattendu pour les Occidentaux et qui était effectué dans le cadre de la guerre du gaz, qui est le cœur même de la guerre en Ukraine. Au cœur même de la guerre en Ukraine, les buts de guerre américains, c'est la guerre du gaz, c'est s'emparer du marché du gaz mondial. Mais pour ce faire, évidemment, il s'agit de mener à la ruine pas seulement les Russes, les Iraniens et les Vénézuéliens, mais également les Qataris et les Émiratis. Ils ont donc basculé dans le cadre de cette guerre du gaz du côté du bloc de l'Est. C'est inattendu pour les Occidentaux. Et le but de cette guerre dans le Genève, ce n'est pas tellement de rassurer les Israéliens, c'est d'essayer de se rassurer par rapport à la position de ces pétromonarchies du gaz, les Émiratis et les Qataris. Malheureusement, il est trop tard pour les rattraper et le basculement de ces gens du côté du bloc de l'Est, qui s'est effectué lors du sommet de Doha, il est définitif, il est assuré pour le bloc de l'Est, malgré ce que voulaient faire les Américains et les Israéliens.
Monsieur Dortiguet, en fait, s'agissant de ce qui s'est passé ces derniers temps entre Palestiniens et Israéliens, en fait, le fait inédit cette fois-ci, c'est qu'on a assisté, si vous voulez, à la lutte armée des Palestiniens contre des Israéliens dans les territoires occupés de 1948. Jusqu'à présent, s'agissant de la lutte armée, c'était en fait les Palestiniens de la Cisjordanie, les Palestiniens de la bande de Gaza qui s'y étaient livrés. Mais pour la première fois, il y a eu la lutte armée des Palestiniens, si vous voulez, qui habitent dans les territoires occupés de 1948 et qui ont, si vous voulez, la nationalité israélienne. Et on a assisté, si vous voulez, à la lutte armée de ces Palestiniens contre, si vous voulez, les Israéliens. Comment vous l'expliquez, M. Dortiguet?
Eh bien, je l'explique par l'avertissement même que donnaient les Nations Unies à Israël, dont nous avons parlé, à savoir dans sa réception. Il était demandé que les territoires donc de 48-49, 50, de 48, de 48-49, c'est ça, soient, disons, enfin, soient visés par rembourser, mais connaissent une sorte de justice, voyez-vous, à la fois foncière, qu'on reconnaisse les propriétés, que, alors que les Israéliens brûlaient les types de propriétés à l'époque, c'est-à-dire reconnaissent l'existence, c'est pas l'immigration, mais l'existence des propriétés palestiniennes. Et ceci est toujours resté ouvert. Ça n'a jamais été, disons, pris au sérieux par les Israéliens. Et aujourd'hui, ils sont en train de le payer. Ils croyaient en effet que, on croyait jusqu'à présent que c'était uniquement les territoires annexés après la guerre des six jours, voyez-vous, la guerre donc de 67, qui était une cause de trouble entre, dans les rapports entre Palestiniens et Israéliens. Non, on avait oublié, et l'histoire le reprend aujourd'hui, qu'il s'agit là, en fait, le problème date avant la guerre des six jours. Il date justement du coup de force que les Israéliens ont, avec Ben Gurion, etc., ont réalisé en 1948. Et donc, la question palestinienne est une question qui est rivée, essentielle à la légitimité de l'entité sioniste, voyez-vous. Elle ne peut pas être légitime si elle ne rend pas, disons, justice au droit foncier palestinien. Je rappelle à nos auditeurs qu'il n'y a pas eu de loi en Israël d'expulsion des Palestiniens. Ils ont utilisé l'arsenal juridique pendant la guerre dirigé contre les Italiens et les Allemands. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de loi nouvelle, ils ont simplement utilisé des lois anglaises.
Luc Michel, je vous pose en fait cette même question d'un autre angle. Bon, il y a plusieurs millions de Palestiniens qui vivent en dehors de la Palestine, dans d'autres pays, au Liban, en Syrie et ailleurs. Il y a également auprès des Palestiniens qui vivent en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, s'agissant de la Cisjordanie. Ces dernières, si vous voulez, décennies, la politique israélienne consistait, si vous voulez, à y construire des colonies à population israélienne, avec objectif, si vous voulez, d'encercler en quelque sorte ces Palestiniens qui vivent même en Cisjordanie. Mais désormais, en fait, je viens de le dire, le régime des Israéliens est confronté à cette, si vous voulez, affaire, à cette question, comme quoi, en fait, il doit faire face désormais aux Palestiniens aux Arabes palestiniens qui ont la nationalité israélienne, qui vivent en fait dans les territoires occupés de 1948. Ça aussi, c'est d'une importance vitale, Luc Michel, n'est-ce pas?
C'est l'échec de la stratégie israélienne. Les Israéliens ont mené une politique de grignotage contre les Palestiniens. Et ils ont refusé à tout un peuple la justice et la dignité. Et aujourd'hui, comme un boomerang, la situation leur revient. Ils n'ont pas du tout su liquider les Palestiniens comme ils pensaient l'avoir fait. Et cette technique qui était d'opposer la Cisjordanie et Gaza, qui était d'opposer le Hamas et l'autorité palestinienne, c'est un échec total et absolu. Vous savez, dans les années 1980, il y avait un grand débat en Israël qui était mené entre des historiens israéliens et qui menaient une réflexion sur l'histoire des royaumes francs de Jérusalem. Les royaumes francs de Jérusalem, après plusieurs siècles d'existence, s'étaient vus à la fin de la dernière croisade rejetés à la mer. Ça avait été la fin des royaumes de Tripoli et de Saint-Jean d'Acre. Après la liquidation des royaumes de Jérusalem, les historiens israéliens pensaient que les Israéliens allaient connaître la même situation. Et ces historiens avaient eu raison anticipativement. Je pense qu'on se dirige vers cela. C'est la fin de la stratégie israélienne. Et d'autant plus ça se fait que la stratégie américaine également est un échec en Cisjordanie à Gaza.
Qu'entendez-vous par la fin de la stratégie israélienne de Luc Michel? Est-ce que vous pouvez vous développer un peu sur le sujet?
Ben écoutez, il y avait une stratégie israélienne qui était de grignoter les positions israéliennes et de tenter par notamment la colonisation en Cisjordanie, de s'emparer des terres palestiniennes. Aujourd'hui, c'est un échec puisque les Israéliens sont face à un peuple mobilisé qui pratique non plus seulement l'intifada, mais la guerre classique et qui ont justement à grignoter eux-mêmes la parité stratégique avec les Israéliens. C'est un échec total de la stratégie israélienne, évidemment, et ça a conduit à rien du tout.
Pierre d'Orsillier, en fait, je viens d'évoquer tout à l'heure en fait la réaction du côté de la résistance palestinienne. Vous-même, vous y avez fait tout à l'heure allusion. Bon, il y a eu la réaction du côté de la résistance palestinienne dans la bande de Gaza en Cisjordanie, mais il y a cet élément, ce facteur qui surgit à l'intérieur des territoires occupés palestiniens. Il pourrait y avoir même un soulèvement, une intifada à l'intérieur des territoires occupés de 1948. Est-ce que cela, cet élément, ce nouveau facteur, disons-le, peut, si vous voulez, modifier nettement le rapport de force en faveur de la résistance, Pierre d'Ortiguier?
Oui, je pense en effet qu'il peut le modifier et de manière à réorienter la stratégie sioniste. J'entends par là que, puisqu'on parle beaucoup de l'Ukraine ces jours-ci, certains observateurs chez nous ont fait un lien entre le nombre de gens qui quittaient l'Ukraine par 4 millions, pour 4 millions, etc., et la possibilité que des sionistes, disons, venant d'Europe de l'Est ou d'Europe centrale ou de Russie, puissent même prendre pied en Ukraine, voyez-vous, ou en Europe. Je crois qu'il y a un plan, évidemment, qui a toujours été, à mon avis, derrière la tête des Israéliens, à savoir que leur présence en Israël est une présence, disons, instable. Ce qui intéresse les Israéliens, ce n'est pas la stabilité de leur présence. Autrement, ils auraient résolu par la justice, par une certaine justice, disons, leur emprise. Ce qu'ils veulent, c'est une domination ou un contrôle de l'ensemble de la région, voyez-vous. Et ils sont prêts à sacrifier, même en partie, leurs propres colons, voyez-vous. Il faut bien prendre conscience de ce caractère double de l'entité sioniste, c'est-à-dire à la fois terre de colonisation, mais surtout terre d'influence, terre, disons, sorte d'état-major de trouble, voyez-vous, qui vise non pas la paix intérieure, mais le contrôle de la région, voyez-vous, avec l'appui, bien sûr, des États-Unis en premier, malheureusement. Et je crois que c'est cet aspect, disons, instable de l'entité sioniste qui en fait le danger, non pas le danger seulement local, mais un danger permanent pour l'équilibre du monde.
Luc Michel, qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur d'Ortiguier estime que voilà, l'objectif est du côté en fait du régime de Tel Aviv et de dominer l'ensemble de la région et pour en fait atteindre un tel objectif, pour réaliser un tel objectif, une telle visée d'ailleurs néfaste. Ceux qui sont derrière cette politique, si vous voulez, sont prêts à se faire tuer même leurs propres colons, Luc Michel.
Le professeur d'Ortiguier a raison. À la fin de la guerre des six jours, parce que avant cela, les Israéliens et les Américains n'étaient pas alliés, Israël est devenu un porte-avions américain au Proche-Orient. C'est devenu le symbole non seulement de la colonisation en Palestine, mais de toute la colonisation par le bloc américain occidental du Proche-Orient. Et la confrontation qui a été gagnée dans la dernière phase de la guerre froide sur la Syrie en particulier, à la fin de la guerre froide, la domination stratégique des Américains et des Israéliens, aujourd'hui c'est en train de se terminer. Ça explique d'ailleurs le grand malaise qui existe actuellement entre Israël et la Russie. La Russie avait une politique de neutralité bienveillante vis-à-vis d'Israël, notamment en Syrie. Aujourd'hui, c'est terminé. Dans le cadre de la guerre de Syrie, bien entendu, un fossé s'est élargi entre l'axe de la résistance alliée aux Russes et aux Israéliens et aux Américains. La fin, justement, de la domination stratégique des Israéliens par rapport à l'axe de la résistance manifeste la fin de cette période géopolitique pour une autre où les Israéliens doivent faire face à une parité stratégique renouvelée avec l'axe de la résistance et à la fin de la neutralité bienveillante de la Russie. Or, aujourd'hui, de l'aveu même des Israéliens et de l'aveu même des observateurs russes, celui qu'on appelle le tsar du Proche-Orient, c'est Poutine. C'est Poutine qui est l'arbitre de la géopolitique aujourd'hui dans le Proche-Orient.
Monsieur Dortiguier, une dernière question. Nous avons 2-3 minutes devant nous. Monsieur Dortiguier, êtes-vous d'accord avec ceux des analystes qui estiment que voilà, ce sont les accords de normalisation, ce sont ces agissements du côté de certains régimes arabes et qui ont poussé, si vous voulez, ces Palestiniens, surtout qui se trouvent dans les territoires occupés de 1948, à se tourner vers la lutte armée, M. Dortiguier.
Oui, en effet. Je réponds brièvement. Ces fameux accords d'Abraham, par exemple, qui ont été, à mon avis, un précipité, voyez, pour cette lutte palestinienne. Les Palestiniens ont vu véritablement une coalition contre eux, et une coalition qui était une sorte de coup de poignard dans le dos, puisqu'il s'agissait de régimes arabes, dont l'un, bien sûr, est une... abrite la Mecque, voyez-vous. Donc il s'agissait là d'une sorte de provocation ou d'insulte, disons, aux Palestiniens. Et je crois que cette réaction vient de là. En fait, disons, l'initiative israélienne a provoqué une antithèse, une réaction qui va à l'encontre même du but poursuivi.
Monsieur Dortiguier, merci infiniment d'avoir été avec moi au téléphone depuis Toulouse pour cette émission consacrée à ce qui se passe actuellement entre Palestiniens et Israéliens à Al-Rots également en Cisjordanie. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse de participer à notre émission. Mes vifs remerciements vont être également à vous, Luc Michel, géopoliticien belge, spécialiste des questions internationales, d'avoir eu la gentillesse d'accepter notre invitation et de participer à cette émission, Le Débat. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et à tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.
La propagande de guerre change de forme. Si l'armée russe a gagné la guerre contre les bandéristes en Ukraine, l'OTAN a gagné la guerre cognitive contre ses propres concitoyens en Occident. L'Alliance Atlantique a mis au point une nouvelle forme de propagande basée sur ce qu'elle dénonçait il y a peu, les fake news, c'est-à-dire non pas les fausses informations, mais les informations biaisées. Comment s'en protéger ? Le général français Philippe Lavigne, du commandement allié Transformation de l'OTAN, supervise les recherches sur les nouvelles méthodes de propagande. Son commandement dispose de 21 centres d'excellence, dont un pour la propagande, le Centre d'excellence des communications stratégiques à Riga, en Lettonie. Il a créé le Carrefour d'innovation de l'OTAN, donc sous la direction du français François Ducluzel, ancien professeur au Collège militaire interarmé de Coëtquidan. Il finance des recherches de la Johns Hopkins University et de l'Imperial College of London sur les capacités cognitives. Et celles-ci portent sur l'ensemble du domaine cognitif avec des applications variées allant des soldats bioniques à la propagande de guerre. L'idée générale de l'OTAN est d'ajouter aux 5 domaines d'intervention habituels, donc air, terre, mer, espace et cybernétique, un 6e, c'est-à-dire le cerveau humain. Alors que les actions menées dans les 5 domaines sont exécutées afin d'avoir un effet sur le domaine humain, l'objectif de la guerre cognitive est de faire de chacun une arme. Comme l'écrit François Ducluzel. Si la propagande de guerre était fondée durant la Première Guerre mondiale sur de fausses informations popularisées par de grandes plumes, puis sur la répétition de messages choisis durant la Seconde Guerre mondiale, elle est aujourd'hui conçue comme un numéro d'illusionniste. Il s'agit d'émouvoir les gens pour distraire leur attention et leur masquer ce qu'ils ne doivent pas voir. Et ils jugent ce qu'ils voient avec les informations sans intérêt dont on les abreuve. De la sorte, on parvient, sans leur mentir, à leur faire prendre des vessies pour des lanternes. Nous vivons en direct la première application de cette technique à l'occasion de la guerre en Ukraine. Pour me faire comprendre, je vais d'abord présenter quelques informations à ignorer, puis revenir sur le traitement de la guerre par la télévision d'État française. Et bien sûr, j'aurais obtenu le même résultat que si j'avais utilisé un exemple allemand, britannique ou même états-unien. En Occident, la narration de la guerre en Ukraine fait peser toute la responsabilité sur le seul président russe, Vladimir Poutine, et subsidiairement sur les personnalités politiques et financières de son régime. Cependant, cette version est manifestement fausse si l'on considère les rapports quotidiens des observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Ceux-ci attestent donc avoir entendu une attaque du Donbass, donc encore ukrainien, par les forces de Kiev le 17 février après-midi. Toutes les agences de presse ont alors rapporté la fuite d'au moins 100 000 civils vers l'intérieur du Donbass ou vers la Russie. En outre, les principaux dirigeants politiques de l'OTAN ont entendu donc le président ukrainien Volodymyr Zelensky leur dire que lors de la réunion de la conférence pour la sécurité de Munich qu'il entendait se doter de l'arme nucléaire contre la Russie. Force est de constater que ce n'est pas Moscou, mais Kiev qui a déclenché les hostilités. Nul ne peut envisager que Kiev ait déclenché cette guerre contre un ennemi bien supérieur sans avoir reçu au préalable des assurances d'alliés apparemment capables de défendre le pays face à la Russie. Il ne peut s'agir que de l'OTAN ou des États-Unis et éventuellement des deux autres puissances nucléaires, à savoir la France et le Royaume-Uni. La première réunion où cette guerre a été présentée comme souhaitable s'est tenue à notre connaissance à la Chambre des représentants le 5 septembre 2019. Elle était organisée par la Rand Corporation, le think tank du lobby militaro-industriel et américain. Et il s'agissait de présenter aux parlementaires deux rapports, excéder et déséquilibrer la Russie. Mais également étendre la Russie, rivaliser donc sur un terrain avantageux. L'idée principale est d'utiliser contre elle la particularité sur laquelle la Russie fonde sa défense, puisqu'il s'agit d'un territoire gigantesque que les Russes défendent en s'y déplaçant et en pratiquant la stratégie de la terre brûlée. Il suffit de les contraindre à se déplacer à l'étranger pour les épuiser. Maintenant, il y a 3 événements qui attestent de l'implication des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France dans la préparation secrète de la guerre. Le 24 mars 2022, une vidéo d'une conversation téléphonique de 22 minutes entre le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, et les humoristes russes Vladimir, donc Vovan Kuznetsov et Alexei Lexus Stolyarov était publiée. Un des Russes se faisait passer pour le premier ministre ukrainien, Denis Shmyhal, que Wallace n'a jamais rencontré. À la question de l'aide que le Royaume-Uni apportait à Kiev pour se doter de l'arme nucléaire, le très honorable Wallace répondait qu'il devait consulter le Premier ministre Boris Johnson et que le principe est que nous soutiendrons l'Ukraine en tant qu'amis dans n'importe quel choix que vous ferez. Et en une phrase, donc, il balayait le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. À propos des missiles anti-chars, donc Next Generation Light Anti-Tank Weapon, donc que le Royaume-Uni vient d'envoyer à l'armée ukrainienne, Ben Wallace admettait qu'il ne fonctionnait pas bien et que des pièces de rechange avaient été également envoyées. Mais c'est surtout à propos de l'OTAN que la langue de Ben Wallace s'est montrée trop prolixe. Le ministre britannique a en effet invité encore une fois l'Ukraine à adhérer à l'Alliance Atlantique. Et au passage, il a involontairement révélé que le Royaume-Uni avait envoyé pendant plusieurs années des instructeurs militaires pour préparer l'armée ukrainienne. Le gouvernement de Boris Johnson a donc déployé tous les moyens en sa possession pour occulter ou plutôt minimiser ses déclarations. Il a prétendu que l'entretien n'avait duré que 10 minutes et a interdit à YouTube et Google de diffuser l'intégralité du sketch. Les médias occidentaux ont été sollicités pour parler de sa bourde sur la bombe atomique et pour occulter les deux autres points. Et c'est toujours ainsi que les Britanniques procèdent, non pas nier en bloc, mais faire disparaître les points les plus dangereux. Le 25 mars 2022, le président Joe Biden se rendait au palais des congrès de Rzeszów en Pologne. Il était accompagné de la directrice de l'USAID et du président polonais. Notons au passage que le président polonais a fait adopter par son parlement une loi niant le rôle de l'État polonais dans les crimes nazis et autorisant des poursuites judiciaires contre toute personne les évoquant. Joe Biden a discuté avec diverses ONG pour saluer leur aide aux réfugiés ukrainiens. Et ceci fait, il prononça un discours devant ses soldats de la 82e division aéroportée stationnée sur place. En outre, il allait leur rendre visite au réfectoire et leur parlait sans prompteur ni caméra. Comme toujours à ces moments-là, le vieil homme de 79 ans, rappelons-le, révélait des secrets d'État. Selon les témoins, il les remercia pour leur engagement en Ukraine depuis longtemps, alors qu'officiellement il n'y a jamais eu de soldats US dans ce pays. Le 29 mars, le général Éric Videau, directeur du renseignement militaire français, a été mis à pied. Aucune explication officielle n'a été donnée. Il semble qu'en réalité, le général avait déployé des hommes sur instruction directe de l'état-major particulier du président Macron en 2021, lorsqu'il était commandant des opérations spéciales pour encadrer le régiment bandériste Azov. Immédiatement, 5 hélicoptères ukrainiens ont tenté de fuir Mariupol, le fief du régiment Azov, et 2 ont été abattus le 30 mars. Les survivants ont été faits prisonniers par l'armée russe. Ils ont immédiatement parlé. Les soldats du commandement des opérations spéciales sont placés pour toutes les questions logistiques sous les ordres du chef d'état-major des armées, le général Thierry Burkhard, mais qui tiennent donc leur ordre directement du chef des armées, à savoir le président Emmanuel Macron. Les relations entre les présidents Macron et Poutine se sont brutalement refroidies. En France, l'État dispose de France Télévisions pour sa propre population, France 2 étant la chaîne la plus regardée et de France Média Monde pour l'étranger. Et ce dernier groupe dépend directement du ministère des Affaires étrangères et diffuse France 24 en plusieurs langues. Pour commencer, France 2 donc proposa un journal en direct depuis l'Ukraine, depuis Lviv, présenté par sa star Anne-Sophie Lapix le 14 mars. Ce journal réunit chaque jour un peu plus de 20% du public. La jeune femme montra quantité de destructions et de réfugiés traumatisés. Elle se promena dans la ville, mais ne remarqua pas l'imposant monument élevé à la mémoire de Stéphane Bandera, le chef des collaborateurs ukrainiens des nazis. Elle interrogea aussi le maire de Lviv sans expliquer que c'est un des principaux oligarques du pays. Elle ne lui posa pas de questions sur son groupe de médias dont sa femme en est la directrice et elle ne l'interrogea donc pas sur les propos tenus la veille sur sa chaîne appelant à tuer tous les Russes, femmes et enfants compris selon la méthode préconisée par le SS Adolf Eichmann. À aucun moment il n'était précisé que cette émission était une initiative de l'oligarque bandériste et de sa femme, tous deux anciens clients de l'agence Publicis d'Arthur Sadoun, l'époux d'Anne-Sophie Lapix. France 2 évoquait également un ancien rapport des Nations Unies faisant état de torture, mais ni la découverte de ces prisons spéciales par l'armée russe, ni les déclarations récentes de l'ONU à ce sujet. Le reportage n'expliquait pas non plus ce que sont les bandéristes dans l'histoire ukrainienne et réduisait l'importance des néo-nazis au port de la croix gammée. Ayant ainsi escamoté le problème, la chaîne estimait le danger entre 3000 et 5000 hommes, tandis que l'agence Reuters assure que les paramilitaires bandéristes représentent aujourd'hui 102 000 hommes répartis en de nombreuses milices incorporées au sein de la défense territoriale.